Salut François Beauregard, comment vas-tu?
Bonjour, j'essaie de me rappeler de l'épisode dont tu
Ah,
parles.
c'était le dernier épisode de la première saison.
La première saison,
Ouais,
oui. Ah,
il
ça
avait
fait
besoin de
longtemps
gagner la
ça.
Coupe Stanley. Je pense que c'était le
Oui.
dernier entracte avant la dernière période.
C'est ça,
Puis
c'est
là, il
ça.
saute d'un
Voilà.
bras. Puis là, il y a Jimmy qui dit Daddy. Puis parce qu'évidemment, Jimmy
Ah
parle en anglais, là.
oui.
Puis après
Ah
ça,
oui, d'accord.
dans la saison suivante, Jimmy avait un accent français, parlait presque mal l'anglais. Ah, vive l'ancien con.
Oui. Mais il faut avoir un esprit ouvert, hein. De toute façon, il y a eu d'autres rebondissements dans la série. Voilà. On sait
J'adore ça,
jamais.
faut avoir l'esprit ouvert. Oui,
Oui, c'est en anglais, ils disent suspended disbelief. Hein?
C'est
Voilà.
mon Dieu, c'est
Les fictions
fantastique.
passent mieux.
J'ai
Alors,
tout à fait.
aujourd'hui, on parle de
De
quelque chose
l'université
qui est
Gallaudet.
l'Université Gallaudet.
Ouais.
Gallaudet est un nom peut-être à consonance francophone, là, mais on parle d'une université qui est à Washington, Washington, District Columbia, là, près de la Maison-Blanche
Oui, une
et
université
Capitole.
semi-publique, c'est
Oui.
intéressant ça. Fondée
Ben, une.
en 1864.
Quatre, exact.
Wow.
L'Université Gallaudet est le fruit du travail d'un philanthrope, Amos Kendall, qui était un cadre important, un politicien américain du milieu du 19e siècle. Il a été un des premiers chefs de la poste américaine, dans le temps où la poste était importante et on ne parlait pas de vote à distance. Et de Edward Minor Gallaudet, qui était le fils du premier enseignant pour les sourds aux États-Unis. Alors, son père avait fondé la première école pour sourds. Alors,
OK, c'est
Amos
pour
Kendall a
ça.
fourni tous ces gens-là sont des entendants, ce ne sont pas des
Ouais.
sourds.
Non, mais ma première question était si Edward Minor Gallaudet a fondé l'université, pourquoi dit-on que le nom est pour rendre hommage à
À son
Thomas? Mais c'est
père,
parce que
oui.
Thomas avait déjà, lui, travaillé pour rendre la
Bon,
scolarisation aux sourds.
possible.
Je
Oui,
comprends, je
exact.
comprends.
Et Thomas Gallaudet avait, lui, fondé la première école pour sourds, quelque chose d'assez modeste, mais tout de même la première au Connecticut, et avait travaillé avec Laurent Clerc, qui lui est un enseignant français qui était sourd.
OK.
Alors, l'Université Gallaudet, bien que fondée par Édouard, est appelée Gallaudet au nom de Thomas.
OK.
L'Université Gallaudet a joué des rôles importants à différents moments dans la vie de la communauté sourde américaine. D'abord, il faut se rappeler qu'à la fin du 19e, il y avait un débat houleux entre les oralistes qui prétendaient que des personnes entendantes devaient enseigner aux sourds essentiellement le langage oral
Ouais.
et des personnes qui, des éducateurs qui pensaient plutôt que le langage des signes était la façon d'y arriver. Et il y a eu un congrès à Milan en 1882-83. Et à ce moment-là, en 1880, et à ce moment-là, il y a eu une scission. Essentiellement, les oralistes ont pris le dessus. Le langage des signes a été interdit dans l'éducation des sourds en Europe. Beaucoup d'enseignants sourds ont été mis dehors. Essentiellement, l'éducation des personnes sourdes est devenue le fait d'entendants qui s'évertuaient à apprendre le langage oral aux sourds.
D'ailleurs, le
Alors,
Québec a subi également les contre-coups de ça.
cette
Là, ça a
vague,
été
ouais,
longtemps l'oralisme qui
longtemps
a
a été
prévalu.
dominée, mais l'Université Gallaudet, elle, s'est plutôt détachée de ça et a prôné l'enseignement par le langage signé.
OK.
Et ça a fait une grande différence, évidemment, à la longue, comme étant une promotion de cette forme de langue et de je dirais, l'appartenance et l'identification à la communauté sourde.
Mais je suis curieux,
Et
est-ce que tu sais s'il y a ou il y avait une université ou du poste secondaire pour les sourds en Grande-Bretagne? Parce que je me demandais si les Anglais européens venaient aux États-Unis et s'ils apprenaient la British Sign Language ou l'American, est-ce qu'on enseignait les deux? Comment on fonctionnait?
ben, c'était plutôt une issue des États-Unis à prime abord. Curieusement, les premiers contacts avec des enseignants sourds venus d'ailleurs ont été faits avec des Français.
Ah oui, hein? OK.
Ouais,
OK.
alors, mais l'autre vague de revendications importantes est survenue plus près de nous en 1988. suite. Il fallait trouver un nouveau doyen, un nouveau recteur plutôt, un nouveau recteur pour l'université. En anglais, on dit un président. Et il y avait une candidate, Mme Zinner, qui était aussi une candidate entendante, puis c'était encore une fois une personne entendante qui était, je dirais, pressentie pour devenir président de l'université. Il n'y avait jamais eu de président de l'université Gallaudet qui était sourd. Alors, il y a eu un mouvement qui s'est appelé Deft President Now, qui était un mouvement de fond de venant des étudiants, mais aussi du corps professoral. Toute l'université a refusé à ce qu'on ait encore une fois un recteur ou une rectrice entendante. Et ça arrivait à peu près en même temps que l'American Disability Act.
Ben, c'est ça. Quand on regarde le film Crip Camp sur Netflix ou quand on suit l'historique de la ADA et son implantation, on remarque que fin des années 70, les années 80, c'est là où vraiment les personnes handicapées aux États-Unis...
Il y a eu un vent, un vent d'émancipation. Ouais. Et donc, ce mouvement-là de Deft President Now à Gallaudet coïncide aussi avec ce mouvement d'émancipation plus large du American Disability Act. Et effectivement, à ce moment-là, M. King, qui était lui-même sourd, évidemment, King Jordan, qui était sourd, et un gradué de Gallaudet, est devenu le premier président sourd.
Bon, un show de radio ne serait pas un véritable show de radio s'il n'était pas question de controverse. Alors, je vais en susciter une, même s'il n'y en a pas. Au départ, il y avait 18 étudiants. 6 étaient aveugles, 12 étaient sourds. Donc, c'est quand même là, 33%. Qu'est-ce qui est arrivé que, disons, desservir la population handicapée visuelle?
Bien, je pense que l'idée, c'est qu'il y avait peut-être des sourds aveugles, là, mais
faut
oublier que la première...
Défais pas mon scandale trop vite, là, François.
Faut pas oublier qu'Edouard... Minor Gallaudet était enseignant auprès des sourds. Ouais. Que son père avait ouvert une école qui était à prime abord destinée aux sourds. Je pense que les aveugles étaient un petit peu en remorque là, au début de cette affaire. Puis 18, c'est pas beaucoup. Hein. Alors,
ça allait
peut-être assez large. Mais rapidement, dans l'histoire de Gallaudet, des étudiants aveugles ont été... disparaissent là, au fil. Ouais. C'est n'est que très épisodique. Là. C'est un peu comme à l'INLB, quand on parlait de l'Institut Nazareth, qu'au début, c'était des orphelins, puis ça donnait que certains étaient aveugles, puis là, c'est comme spécialisé vers la cécité. Ouais. Mais là, c'est un peu le contraire.
Okay.
Et une chose qui était amusante, c'est que c'est les Bisons de l'Université Gallaudet, qui est une équipe de football, qui ont été les premiers à adopter l'idée d'un caucus où les joueurs de football...
OK, ça, c'est pas une légende, ça. C'est
vrai,
réel.
Les
sourds seraient à la base du caucus au football.
Oui, parce qu'avant, ce qui arrivait, c'est qu'ils devaient expliquer le jeu à tout le monde, mais là, il fallait qu'ils fassent ça avec un langage de signes, puis où les autres, les adversaires finissaient par comprendre de quoi il s'agissait. Alors là, ils se sont dit, on va se ramasser en petit cercle fermé, comme ça les adversaires ne sauront pas de quoi il s'agit, de quoi on parle et quel va être le prochain jeu. Alors ça, c'est pour l'anecdote. Et ils auraient commencé à faire ça en 1894. Maintenant, si on arrive à aujourd'hui, il y a quelques semaines, on a annoncé une importante collaboration entre Apple, la société qu'on connaît, et l'Université Gallaudet. Alors, Apple va fournir à tous les étudiants, à tout le corps professoral de Gallaudet des tablettes, iPad Pro, tout le monde va être équipé en Apple avec une interface qui va être conviviale. Et donc, Apple va être le fournisseur de technologie, d'interface pour toute l'université, permettant aux étudiants d'accéder à à cette technologie sous une forme accessible pour eux. Hein, bon. Et il y a même une intervention auprès de la librairie ou de la bibliothèque de l'université, du magasin Apple de la région, la participation des étudiants en technologie, programmation, analyse à des séminaires ou à des colloques d'Apple. Alors, Apple a décidé de technologiquement prendre Gallaudet sous son aile.
Ouais, à première vue, ça semble.
Le développement de technologies accessibles aussi, Apple va y trouver son compte. Là.
En terminant, François, disons, appelons ça là, une université ou une école spécialisée.
C'est, ils ont 40 curriculums différents. Là. Ils enseignent toutes sortes de choses.
Non,
ils sont spécialisés parce que ça fonctionne en langage...
En langue des signes, mais je comprends. Là, mais je veux dire, au Canada, et ben, d'ailleurs, on l'a dit, c'est la seule université. Habituellement, on essaie d'intégrer les gens qui sont en situation de handicap. Est-ce que... pourquoi celle-là a survécu et a traversé vents et marées?
Bien, je pense parce qu'elle était souvent le refuge, dès le départ, quand on parlait de la controverse entre le langage des signes et les oralistes, ça a été le phare de la culture sourde où l'enseignement... En 1880, là, les sourds ne devaient même pas se marier entre eux, puis c'était juste des entendants qui leur enseignaient.
Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr.
Il y avait vraiment un point de vue...
Mais ça, c'est il y a 140 ans.
Ouais, c'est ça, mais ça fait que, au lieu de se plier à cette... à cet aspect oraliste dominé par des entendants, la culture sourde a pu avoir un développement plus florissant auprès de l'Université Gallaudet. Alors, elle a toujours été un peu un aimant puis un carrefour pour les personnes dans la communauté sourde pour s'y retrouver. Alors, elle est devenue à la fois un symbole puis un carrefour et une institution très importante dans la communauté sourde. Alors, c'est pour ça qu'elle a survécu, parce que dès le début, elle s'est positionnée en défenseur de la communauté. Puis
en regardant quelques vidéos sur YouTube, on remarque justement tout le positif qu'un pôle comme celui-là peut apporter à l'évolution pour une communauté. Et on se dit, comment se fait-il que ça n'existe pas davantage dans le monde? Je veux dire, les commerces autour, les employés commencent à apprendre des signes. En tout cas, il y a beaucoup de positivités.
Oui, tout à fait. Puis c'est à côté du gouvernement qui permet
c'est à Washington.
Faire un peu de lobbying à bon escient. Là. Alors, oui, c'est très important.
Merci, monsieur. Merci bien, M. Beauregard.